es como esto.
Il y a 50 ans, Christian Vander fondait Magma, une des grandes épopées de la musique moderne. Indestructible, Magma s'apprête à fêter son 50e anniversaire par une tournée mondiale, avec quelques dates en France, et la sortie en mai d'un nouvel album. Nous avons rencontré Christian Vander en janvier dernier, quand il jouait la musique de John Coltrane avec son quartet Rue des Lombards à Paris. C'est une émission proposée par Didier Houd pour Alternante FM, 98.1 à Nantes et Saint-Herblain, 91 à Cambon et Saint-Nazaire. Christian Vander, on est ici au Sunside. Vous avez joué hier soir, vendredi, avec votre quartet, le quartet qui porte votre nom. Vous rejouez également ce soir, toujours avec les mêmes compagnons de musique. Comment est-ce que vous l'avez formé, constitué ce quartet ?
Plus naturellement possible. Je pense que je connaissais bien les musiciens. Emmanuel Grimoncré, le contrebassiste avec qui j'avais joué avec Emmanuel Borghi. Bon, tout était d'accord pour faire ce type d'expérience, quartet. Puis Jean-Michel, je l'avais écouté jouer, j'ai trouvé que c'était un très bon saxophoniste. Après, tout s'est fait simplement. Hein. Comme je ne jouais plus à l'époque avec Manu Borghi, je connaissais quelqu'un qui adorait McCoy Tyner, en l'occurrence Laurent Fickelson. Donc voilà, le quartet était pratiquement trouvé. Que des gens qui aiment la musique de John, en tout cas.
Et c'est vrai que ça se sent, ça se voit également que vous prenez tous plaisir à jouer cette musique ensemble.
Ouais, parce que c'est une musique qui laisse beaucoup d'espace, d'ouverture. Après, ça dépend de l'invention de chacun et la construction des chorus, des solis ou des solos, selon. C'est une musique assez ouverte qui permet beaucoup de choses, quoique il y a une rigueur interne au niveau des formes. Il y a véritablement respecté un thème en 32 mesures, se joue en général en 32, sur l'improvisation.
Moi, je vous ai souvent, enfin, parfois entendu dire que vous aviez du mal à trouver les musiciens pour jouer la musique que vous aviez envie de jouer, même la musique de Magma, qu'il y avait peut-être un niveau d'exigence que vous aviez, et même si vous respectez profondément les musiciens avec lesquels vous avez joué, ces musiciens-là n'arrivaient pas forcément à jouer la musique que vous entendiez. Là, moi, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas, que vous êtes tous au diapason.
En général, c'est la même chose que pour le quartet ou la musique de John Coltrane. Ce sont des gens qui aiment au départ Magma. Après, c'est une musique, en effet, exigeante au niveau rythmique, particulièrement, et de précision. Donc, il faut des gens qui soient plutôt doués rythmiquement pour pouvoir jouer les choses. Mettons que c'est compliqué. Plus on se connaît, plus on peut se permettre aussi des écarts, c'est-à-dire être quelque part et non pas... On a compris, comme je disais un jour, est-ce que tout le monde a bien vu la mise en place? Elle est parfaite? Ouais, bien, on ne jouera jamais de cette manière. Parce qu'on ne peut pas véritablement jouer exactement, sinon c'est une musique autant prendre une boîte à rythme. Je veux dire, l'idéal, c'est de pouvoir s'évader à l'intérieur même de cette musique qui est pourtant assez structurée.
Le danger aussi, c'est peut-être de créer des habitudes. Quand on se connaît bien, peut-être que les habitudes arrivent. Et puis, si l'habitude est là, la surprise, celle que vous exigez tout le temps, hein, vous dites qu'il ne faut jamais rejouer un morceau comme on l'a joué la veille, jamais refaire sur disque ce qu'on a déjà fait en concert. L'habitude, c'est un peu, ça peut créer ce danger, ce problème.
Oui, ça tue. Ça tue tout, la musique, et puis en plus de ça, il y a une lassitude hein, qui survient. Je pense que l'idée, c'est de crever l'abcès. Quand on sent que c'est trop tranquille, si on peut dire, on cherche les ouvertures pour créer un peu, faire dispersion, un peu disperser la chose et obliger les gens à se positionner différemment. Et donc forcément, ça influe beaucoup sur la musique et l'impression qu'on en a en l'écoutant. Les gens disent « Oh, j'étais au concert hier soir, c'était pas du tout pareil. » Et pourtant, bon, la musique a été écrite, on peut dire. Et donc, mais c'est le jouage qui était différent. Et du coup, l'invention, parce que ça oblige les gens à trouver d'autres placements. Et donc, peut-être aussi d'autres... pourquoi pas d'autres notes aussi. Moi, je demande à tout le monde... à la limite, on devrait même pas se le dire. Si quelqu'un trouve un phrasé très différent de ce qui était prévu au départ, moi, je n'ai jamais été contre, hein. À partir du moment où on reste dans l'esprit du morceau.
Alors, le Sunside, c'est un club de jazz. Dans le livre qu'a écrit Christophe Rossi, il y a toute une partie sur vous et puis la batterie. Et puis, vous dites que le club, jouer en club, ça a totalement changé votre rapport à la batterie et puis la manière de jouer de la batterie.
Au départ, j'ai voulu jouer du jazz. Bon, j'avais de toute manière pas de composition, Magma n'existait pas. Honnêtement, j'étais prédestiné à jouer du jazz. Ça avait été ma vocation. Et puis, c'est trouvé qu'on a joué Magma. Et Magma, on a joué plus souvent des salles, mais avant même que Magma soit connu, c'était quand même pas des clubs. Hein. Plus rarement que des salles. Au bout d'un moment, on ne faisait que des grandes salles. Et donc, on prenait pas des habitudes, mais je veux dire, au niveau de l'impact, notamment de la batterie, il fallait jouer à un certain niveau, hein, donc assez puissant, large. Et quand j'arrivais en club, et que je faisais, comme on dit, le bœuf, jam session avec des musiciens, je les cassais. D'abord au niveau tempo, parce que je jouais très droit, croyant que le jazz, c'était une pulsation, allez, 3, 4, tchigaling, 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 donc allons-y. Et dès qu'un musicien fluctuait un peu, je vais casser les doigts, parce qu'en fait, je jouais tout droit, parce que le tempo était là et pas ailleurs, sans chercher à rentrer dans ses méandres à lui. Et j'étais pas capable de faire ça. Donc, rejouer en club, ça m'a permis de mieux écouter les musiciens, et surtout en acoustique, et donc varier complètement mon jeu. Hein. Je me suis rendu compte que j'avais perdu énormément sur un côté, où j'avais gagné beaucoup de jouage, comme on dit chez nous, dans les grandes salles et tout ça, mais en club, j'étais incapable de jouer. Les premiers bœufs que j'ai pu faire avec des musiciens, même avec Michel Graillet, ça a été une catastrophe. Et je ne comprenais pas quand je sortais de la batterie que tout le monde me regardait bizarrement. Moi, j'étais content de ce que j'avais pu jouer. Qu'est-ce qu'ils ont après moi? C'est plutôt eux qui devraient se reprocher des choses. Et en fait, non, c'est moi qui n'arrivais pas à comprendre leur toucher. Pour moi, c'était comme ça, bling, tout envoyé, tempo, ça accrochait. Mais non, je jouais. C'était pas, j'avoue que je perdais beaucoup de subtilité. C'est l'écoute de ce type de musique qui s'écoute à la note près et non pas globalement sur des sections d'ambiance. Comme ça s'effectue plus dans Magma. Il y a un tempo qui est donné sur certains passages et toute séquence, elle est jouée sur un tempo intense d'une certaine manière. Que là, dans le jazz, particulièrement, d'une note à l'autre, tout peut varier. Et ça, faut l'entendre. Et pas trop se perdre. Ça apprend énormément.
La phrase de Jacqueline Ferrari, qui était la directrice, la patronne hein, de cette salle, le Riverbop, qui vous dit, quand vous commencez, qui dit, ben là, Christian, tu vas apprendre à jouer du jazz, quoi. Tu vas vraiment devenir un jazzman, quoi.
En fait, elle avait dit un sideman. Mais bon, moi, j'aime pas l'idée du sideman, parce que le sideman, c'est un gars qui peut tout faire. Alors ça, pour moi, c'est bon et mauvais côté. Ça veut dire qu'on doit s'adapter En général, les sidemen ici, les musiciens français de jazz, souvent sidemen, sont des gens qui peuvent jouer avec n'importe quel musicien américain qui va venir. Alors, si c'est le style Art Blakey, pour un batteur, il va jouer Art Blakey. Le lendemain, il va falloir qu'il joue Kenny Clarke. Le surlendemain, Joe Jones, ou je ne sais, ou pourquoi pas Elvin. Donc, au bout d'un moment, on joue tout et rien. Moi, non, mon choix a été fait. J'essaie de m'approcher de l'ambiance, du style, si on peut dire, de la manière dont s'exprime Elvin Jones, avec ma manière à moi de concevoir et d'appréhender cette musique. C'est sûr que mon jeu ressemble à celui d'Elvin, on ne peut pas dire le contraire, mais à ma manière, donc c'est certain, Elvin c'est Elvin. Mais jamais Sideman, on ne va pas me demander demain de jouer Blakey. J'aime beaucoup Blakey, par exemple, mais je n'ai pas envie de jouer cette musique. Je ne pourrais pas faire une chose pareille. Donc c'est pas tout à fait Sideman. J'ai appris simplement à renouer avec le jazz, retoucher cette chose dans le bon contexte avec les gens qui le pratiquaient tout le temps. Ça m'a beaucoup aidé de le reverb.
Cette batterie là qui est à quelques mètres de nous, c'est une batterie que vous utilisez spécialement pour jouer avec le quartet ?
Non, c'est une Gretsch. Non, j'utilise aussi pour Magma. C'est des nouveaux modèles qui sont fabriqués à l'ancienne, paraît-il, round badge pour Gretsch. Donc, même conception, même matériaux. Par contre, ce qu'il y a, j'en discutais avec un batteur, il me dit, oui, c'est bien, mais, je lui dis, oui, mais les pots ne sont plus les mêmes qu'avant. Donc, on a perdu la qualité des pots qu'il y avait dans les années 60 jusqu'à 70. Je crois même que les dernières, c'était 81. Et les peaux, pour moi, la peau d'une batterie, c'est 50% du son, et notamment pour Gretsch. Donc là, on a 50% du son Gretsch. J'ai même du plastique et ça ne veut plus le faire. Je n'en reviens pas.
Et les cymbales, là, ces fameuses cymbales que vous ne quitteriez jamais. Je me rappelle d'une conversation qu'on avait eue. Je vous avais demandé si vous deviez garder un élément de votre batterie, lequel vous garderiez. Vous m'aviez dit... des cymbales, forcément des cymbales.
En général, les batteurs, quels que soient les pays, un batteur ne se sépare jamais de ses cymbales. En l'occurrence, la cymbale de droite, qui est pour un droitier évidemment la cymbale Ride, et la Charley, les cymbales Charleston. Ça, c'est essentiel. Batterie, bon, mais la couleur cymbale, un batteur, de toute manière, ses cymbales, il les a souvent avec lui. On ne peut pas toujours emmener sa batterie à l'étranger, des choses comme ça. Mais en tout cas, même nous, si on tourne, qu'on aille jouer je ne sais où, aux États-Unis ou au Japon, je ne sais qu'est-ce, on emmène les cymbales. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et ça, c'est... Autant on peut toujours se débrouiller avec une batterie, des fûts, mais cymbales, c'est difficile. Mes cymbales sont correctes. Mettons, c'est... À un certain moment, ce que j'ai pu trouver de plus correct, j'en ai quelques-unes encore, mais contrairement à ce que les gens imaginent, comme un gars hier soir qui me disait « ta cymbale cloutée, elle est géniale », j'ai dit « c'est marrant, les gens la trouvent toujours géniale quand je suis en train de jouer, mais quand ils viennent l'essayer, ils sont assez déçus. » Parce que c'est un peu un travail du poignet, quoi. On accompagne chaque note, donc il faut déjà presque anticiper où va jouer le pianiste ou le sax ou le bassiste et travailler malaxé sa cymbale comme une pâte, comme une cuisine, hein, je dirais. Et c'est ce qui fait le son. La cymbale, si on la joue bêtement tout droit, pas tout droit, mais sans être à l'intérieur de la cymbale ne sonne pas. Avant, elle sonnait tout naturellement, la cymbale. Alors, si en plus on avait le poignet, l'art de le faire, malheureusement, on en a gâché quelques-unes. À l'époque, il y avait de très bonnes cymbales. Moi, le premier.
Alors, il y a une caractéristique, c'est quand on parle de technique, là, cette batterie, la Charley, en fait, il y a les deux cymbales, mais elles n'ont pas le même diamètre. Vous êtes un des rares à faire ça. Et d'ailleurs, quand j'en parle à d'autres batteurs, ils sont toujours très étonnés, très curieux de cette chose.
Moi, je dirais, moi aussi, je suis surpris que les batteurs ne sachent pas que... Quand on voit des photos, par exemple, et notamment la dernière personne qui se faisait fabriquer une cymbale Charley de deux diamètres différents, c'est Tony Williams. Bon, maintenant, il est parti, Mais chez Zildjian, il lui fabriquait les cymbales, la plus grande étant en dessous et un peu plus petite au-dessus. Après, il jouait même des 15 inches ou 16 des fois. Blaquet, par exemple. Ce qui est énorme, c'est comme presque. Mais tout simplement, on a avec une cymbale assez dure en dessous et une plus souple au-dessus. Et là, on a un bel écrasement de tchac, si on peut dire le mot. Et non pas tic, 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 tic. Ça, c'est les disques, le son des disques des ingénieurs qui n'ont pas su capter les charlets. Donc les gosses, ou les gars qui jouent de la batterie, veulent le son qu'ils entendent. Et maintenant, on leur fait le son qu'ils entendent. Mais qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que si on a une charlet qui est bien grasse, qui a un son tchac énorme, et qu'on veut la réduire, on peut toujours la réduire en studio, la rendre plus fine. Mais si déjà on joue avec une cymbale qui a un son tellement fin, tic, 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 il n'y a pas de matière. Si en plus de ça, on met un peu trop d'aigu dessus, alors là, il n'y a plus rien. On a un meilleur son de toute manière avec une plus large cymbale en dessous et qu'au-dessus. Tous les batteurs jouent de cette manière. Hein. Je parle des grands batteurs. Hein. Je parle pas de... Après ça, beaucoup de batteurs de rock n'utilisent pas de la même manière. Hein. Ils s'en servent pour jouer un tempo au-dessus avec charlet principalement fermé ou des choses comme ça. Donc je ne dois pas être un batteur de rock.
Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Jean-Michel Touchel, Laurent Peterson, Emmanuel Démontré, Christian Marais.
Magma a pris une année qu'on peut appeler sabbatique, mais pas vraiment, après avoir tourné dans le monde entier. Vous avez choisi de vous retirer de la scène pendant un certain temps. Vous avez vécu ce moment-là comment, là, le moment où ce retrait tout d'abord?
Enfin, c'était pas tout à fait comme ça. Elle a dit, bon, peut-être là, cette année, on peut lever le pied pour les concerts. C'est-à-dire qu'on a passé 3 ans à tourner un peu partout et... Honnêtement, comme je dis, bon, les gens prennent l'avion, ils ont les bagages à la main, ils partent pour 15 jours, c'est pas pareil. Nous, on passe par les mêmes choses, machin contrôle, etc., passer à la moulinette, se demander à chaque fois si on n'est pas un malfrat. Les villes où on jouait, des mégalopoles, quelquefois, il faut 1h30 pour traverser la ville, puis 1h, 1h30 pour aller à l'aéroport, donc partir à 6h du matin. Des vols, ça dépendait, ça pouvait être 5 heures, 8 heures, 10 heures, plus, et après le soir, le concert. Et ça, à peu près, presque tous les jours ou tous les 2 jours. Au bout d'un moment, c'est quand même la grande fatigue. On en a donné beaucoup. Même moi, qui étais toujours stressé en avion, j'avoue, j'ai passé le cap. Et puis donc là, cette année, Stella m'a dit, peut-être une année, un peu de repos, on arrête les concerts, et on en profite pour faire un disque.
Je vous vois sourire. Alors, ce disque, c'est évidemment Zeiss. Pendant un certain temps, vous le nommiez pas. On a eu des conversations au téléphone, on s'est vu, et c'est un nom que vous ne prononciez pas. Sous l'Empire romain, on ne prononçait pas le nom de la ville de Rome. Les Romains devaient dire Urbs, parce qu'ils avaient peur que s'ils disaient Rome, peut-être que l'Empire allait s'écrouler. Et vous aviez...
Quelqu'un qui a voulu le dire.
Est-ce que vous aviez peur de quoi? Est-ce que vous aviez peur?
C'est pas... Enfin, il faut remémorer l'histoire. Au bout d'un moment, à force de dire non, parce que chaque année, enfin, je dirais, ou tous les 2 ans, Stella me relançait, alors on l'enregistre, ce morceau... Je répondais non. Une des raisons, c'est surtout peut-être la principale raison, c'est que dans l'histoire de Zeiss, il n'y a pas d'ouverture possible. C'est l'histoire du néant. Donc après le néant, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je dis, on ne va pas faire la symphonie des grenouilles. Les gens vont me dire, c'est bizarre, tu fais le néant et ensuite après tu nous fais une symphonie sur les grenouilles ou les sauterelles. Il n'y a plus de sauterelles, il n'y a plus de grenouilles, il faut bien se le dire. Donc ça m'a bloqué. Parce que dans chacun des morceaux que j'ai pu faire, il y avait toujours une ouverture. Pour un renouveau. Même la fin de Mécanique Commando, qui est un genre de suicide collectif, soit les gens n'étaient pas prêts pour ce monde, etc., disparaissent, mais à nouveau, il y a quelque chose qui va, une goutte qui s'échappe de ce fameux linceul, qui va peut-être créer un renouveau, voilà, à nouveau des pâquerettes. Mais en tout cas, il y avait un espoir possible pour un renouveau, que dans Zeiss, non. Donc là, ça bloquait tout. Ça voulait dire que après Zeiss, j'étais obligé d'arrêter la composition pour être en accord avec moi-même. Et j'ai même pas réfléchi 10 secondes. J'ai dit, on enregistre Zeiss, oui, voilà, advienne que pourra. Après, j'ai dit, voilà, c'est fait, c'est dit. Donc Christian, là, t'es condamné, c'est fini. Après Zeiss, c'est ton dernier morceau, là. Et puis, je sais pas. J'ai eu une idée, une fois qu'on l'a trouvé, c'est toujours une idée géniale, pour moi en tout cas, ça l'a été. Et je me suis dit, mais ça peut être très bien être un songe, une sorte de vision, une sorte de futur, ou de. Voilà. Comme un gars qui se réveille après un cauchemar ou pas, ça dépend de l'état d'esprit. Et dire. J'ai une vision d'un truc, de la fin des univers, de tout, de l'apocalypse, de tout. Et ça a été l'ouverture. À partir du moment où c'est un songe, il y a une ouverture pour la suite.
La particularité également de l'enregistrement de ce morceau, c'est que beaucoup des morceaux de Magma qui ont été enregistrés sur disque étaient quelques temps avant, et puis même au moment même, étaient joués sur scène. Beaucoup des morceaux ont finalement été aboutis sur scène. Là, Zeiss, c'est un morceau que vous n'avez pas joué depuis déjà pas mal d'années.
Ah oui, ça remonte quand même. Et puis là, en plus, les musiciens qui ont joué, qui ont participé, bon, à part Simon, n'avait jamais joué de Zeiss. Je ne sais même pas si le bassiste Bubu l'avait déjà joué de Zeiss. Il avait déjà joué de
Zeiss ? Si, au Triton notamment.
Pardon. Donc ça, on oublie. À part Bubu donc, et Simon, le batteur l'avait écouté, mais n'avait jamais joué. Pardon. Bien, le guitariste non plus. C'est une version différente de ce que les gens, ceux qui connaissent, ont pu entendre.
En tout cas, c'est une version complète, hein, puisque on a entendu que des extraits sont des extraits. C'est toujours Zeiss, extrait de Zeiss, ce qu'on a entendu.
La structure interne est la même. Ce qui manquait, c'est le final, qui n'était pas complet. C'est-à-dire ce qu'on appelle la coda. Donc là, il y a l'intégralité. Et aussi les mouvements qui sont justes. C'était, on est dans l'idée du mouvement, mais c'était pas ça. Et la coda, on jouait des homes à la fin, basta. Que là, on a tout le final qui est là. Après, les structures internes sont à peu près les mêmes. J'ai amélioré le discours en français. Il y a juste une anecdote que je peux raconter. C'est dans les années 70, j'avais fait le texte des maîtres. Et il m'est passé en tête le maître des sons, qui est quand même assez important. Et là, j'étais je ne sais plus où, j'avais un stylo, mais pas de papier. Mais ça va très vite, c'est un trait, c'est un peu comme un poème ou autre, il nous passe ce trait. 10 minutes après, c'est trop tard, on a perdu l'essentiel ou le fil de la chose d'un seul tenant. Donc, je me suis précipité. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Une enveloppe. Et parce que tous mes textes étaient écrits sur des cahiers. Bon, et là, je trouve une enveloppe et je note le maître des sons, etc., etc. Je note. Et puis, je ne sais pas, j'ai quand même beaucoup déménagé, tout ça. Quelque part, cette fameuse enveloppe s'est égarée. Je ne l'ai plus jamais retrouvée. Donc, il manquait cruellement ce maître des sons. Donc, j'ai dit, si un jour j'enregistre, il faudra à nouveau que je fasse le maître des sons, que je réécrive le maître des sons. Et là, ça me faisait un peu peur. C'était tellement ça que je me suis dit, plus blanc que blanc, bon. Et puis, après avoir dit oui à Stella pour le projet, Zeiss, soudainement me vient l'idée du maître des sons à nouveau. Et là, j'avais un stylo, pas de papier, même histoire. Je fouille tout de suite, mais alors ça se passe très vite, et il y avait une enveloppe posée. Et j'ai écrit le maître des sons à nouveau sur une enveloppe. Ça, c'est quand même un peu fou. J'en parlais à Bruno Ozé, qui fait des interviews quelquefois. Et il m'a dit, c'est un message, franchement.
Oui, surtout sur une enveloppe.
Ah, oui, évidemment. Ça, c'est incroyable.
Vous vous êtes préparé comment avant de rentrer en studio? Comment vous préparez? Comment vous êtes préparé justement à ce morceau qui était là, que vous attendiez, qui vous attendait?
Pour l'introduction et pour la coda, on avait 3 jours pour faire la rythmique. Et la coda était inclue, même s'il n'y a pas de batterie dans la coda, ni dans l'introduction. Ça faisait partie de cet enregistrement des 3 jours. Il fallait que ce soit le même piano. Et c'était un superbe piano, hein, Fazioli, vraiment franchement génial. Un vrai chanteur, ce piano. On travaillait le matin avec Simon pour travailler les mouvements de l'intro et après les mouvements de la coda. Donc on les a mis en boîte, si on peut dire, en 3 jours. Tous les matins, on enregistrait la coda et l'intro, je veux dire, l'intro et la coda. Et donc on a réussi. Après, il fallait la rythmique était enregistrée, elle, à partir du moment où la batterie rentre, je veux dire. À partir de 2h l'après-midi, on avait de 2h à 6h. Et les 2 premiers jours, on a fait échec et mat. Là, le stress commençait à monter parce que on avait déjà les rendez-vous avec les filles à Nice pour le chant et surtout avec l'orchestre de Prague. On peut reculer 50 musiciens, leur dire bon, ben les gars, on va faire ça dans 3 jours parce que là, on n'a pas réussi à mettre la rythmique en boîte. Et puis, de toute manière, le studio n'était pas disponible, où il y avait le fameux Fazioli. Donc, ça remettait vraiment le disque à des mois après. Ça pouvait bouger. Donc là, c'était franchement, moi, j'ai passé de très mauvais moments, hein, de stress. Ça, je ne cache pas, j'étais plus angoissé encore que les musiciens qui jouaient. Alors, on a fait quelques chants témoins, sauf mon chant solo plus le discours en français, je l'ai fait en direct. Par chance, ça a été la bonne prise. On avait fait une prise qui était pas mal. À l'issue des 2 premiers jours, le 2e jour au soir, on en réussit une. Et tout le monde me dit, ça y est, cette fois on la tient. Bubu vient me voir, ça y est, le batteur était content. Simon me dit, je crois que cette fois... Et là, Stella arrive, comme une furie, elle me dit, ce n'est pas du tout... Enfin, je pourrais faire presque avec l'accent de Giorgio. Ce n'est pas du tout ce qu'on avait dit. Tempo est trop rapide, j'avais du mal même à articuler dessus. Comment tu veux que les chanteuses ou les musiciens jouent les arrangements prévus sur un tempo qui est encore plus rapide que le live? Elle avait raison. Le tempo était prévu plus médium, pour pouvoir articuler mieux les phrases, plus jolie musique, plus, qui s'écoutait, en modulant mieux, plus de musicalité. Et donc, j'ai dû expliquer aux musiciens après. Et d'ailleurs, j'ai dit à Morgan, à Green, le batteur, je lui ai dit, écoute, à la vitesse, on l'a fait là. Si tu l'as fait comme ça, à mon avis, demain, 2 crans en dessous, ça devrait largement le faire facilement. C'est pour dire, on est obligé de recommencer demain. Et là, on a fait la bonne à 2h l'après-midi, en début d'après-midi.
Pourquoi avoir demandé à un autre batteur de jouer cette partie de batterie
parce que ça a toujours été un batteur qui jouait dans Zess et jamais moi.
Oui, mais là, en studio, vous auriez bien pu...
Non, bien sûr que non, puisque déjà, le texte en français au départ, il n'y a pas de basse qui passe. C'est free, si on peut dire. Comment évaluer la durée du discours qui n'est jamais dit tout à fait de la même manière rythmiquement? Il aurait fallu qu'après, en re-re, après avoir fait la batterie, je cale le discours sur des mesures qui existaient et non pas... Non, j'ai dit le discours, à chaque fois je disais le discours, et à chaque fois les gars jouaient dessus, et au bout d'un moment, les basses passent, et là, le canevas était beaucoup plus simple de cette manière. Puis de toute manière, on avait qui il fallait. Stella dit que c'est une idée à elle, c'est possible qu'elle y ait pensé, mais... Moi, je dis, c'est une idée de mon amie Florence. Parce que moi, je ne voyais pas qui prendre pour enregistrer ce morceau. Honnêtement, hein. Quelqu'un qui a un peu tous les... Comment dire? Qui connaissait un peu toutes les choses pour pouvoir réaliser d'un bout à l'autre. Et Florence m'a dit, pourquoi pas Morgane? Alors là, c'était un peu comme Raymond Souplex. Hein. Bon sang, mais c'est bien sûr. Oui, Morgane, bien sûr. Et il nous a fait une rythmique, indépendamment de Simon et de Bubu, ça roulait, j'ai appelé sa rythmique le train bleu, comme le train qui nous amenait dans le sud avant, le train de nuit. Je lui ai dit c'est Blue Train, il y avait un petit jeu de mots quand même.
Qu'est-ce qu'elle a de si particulière, cette rythmique de batterie là,
En fait, on ne l'entend jamais, parce que le tempo était tellement rapide que les batteurs n'avaient pas la main gauche qui pouvait suivre pour jouer cette espèce de triolet qui à la main gauche, avec cette accentuation. Et donc, au bout de 3, 4, 5 minutes maximum, il décrochait. Et il jouait le minimum dessus. Tout en, des fois, donnant une super belle impulsion, comme Doudou l'avait pu faire. Mais il jouait plus que... Moi, j'étais certain que Morgan, en écoutant les bandes, il allait me jouer ça le jour de la prise. On en a commencé, j'ai entendu tout de suite qu'il jouait ça. Il me dit oui, c'est ce que jouent les batteurs. J'ai dit non, c'est pas ça. Le rythme est comme ça. Je lui ai fait voir. Et je lui ai dit le problème, c'est que ça, il faut le tenir tout le morceau. Et il m'a dit, il l'a travaillé pendant 5-10 minutes. Et il m'a dit ça y est. Et là, il a enfilé le morceau. Sans absolument aucun effort, je dirais. Aucun effort. On sent qu'il a donné, hein. Mais il l'a joué d'un bout à l'autre. comme un rail, un train, un rail, une sorte de ronronnement. Magnifique.
C'est un morceau que vous jouez sur scène?
Oui, oui.
Et avec quel batteur?
Ce qui est prévu à la Philharmonie, c'est Morgan qui va jouer la batterie, hein, dans Zest. Tant qu'ils peuvent dire, c'est lui qui jouera. Après, je ne sais pas si on pourra jouer Zest si, autrement. Hein. Et je précise qu'à la Philharmonie, il n'y a pas de philharmonique. Beaucoup de gens m'ont dit, alors, vous jouez avec le philharmonique? J'ai dit non. Ça s'appelle la Philharmonie, c'est une grande salle, très belle, mais on va jouer avec une section de cuivre augmentée. D'ailleurs, l'arrangeur, celui qui a fait l'arrangement, Rémi Dumoulin, qui a fait l'arrangement pour le philharmonique, sera au sax dans cette section aussi. Et c'est lui qui va faire l'arrangement de cuivre.
Et pourquoi avoir choisi justement une version philharmonique justement pour Zeiss?
Ça, c'est une idée de Stella au départ. Elle m'a dit, moi j'avais pensé, bon, c'est un morceau aussi très important. Tous les morceaux sont importants, mais une Zeiss quand même depuis le temps pourrait peut-être en être un plus. Pourquoi pas avec un philharmonique? Je dis, oh là. Puis en plus, sachant le prix d'un philharmonique, je me suis dit, non, mais c'est une mission quand même très difficile. Après, elle s'est renseignée. Après, il était question de le faire en version normale, avec aussi une section de cuivre, agrémentée des chœurs, tout ça. Mais on avait un peu laissé l'idée. Et puis, un peu de temps après, elle me rappelle, elle me dit, bon, finalement, j'ai trouvé philharmonique, Prague, et c'est un super orchestre, et qui est dans les moins chers. On avait une journée, on peut dire, pour l'enregistrement de Zeiss. Là aussi, on avait peur. Un quart d'heure avant la fin, parce que c'était 2h, 6h. Peu. On était à un quart d'heure de la fin, et là, il était 6h moins 10 ou moins le quart. J'ai dit, c'est fichu. On va pas avoir l'orchestre jusqu'au bout. Et parce qu'après, ils n'étaient plus disponibles. Et puis voilà, quoi, bon. Et le gars, le chef qui était entré complètement dans l'histoire, refaisait les parties plus royalistes que le roi. On disait quelquefois, ouais, elle est bonne la partie, là, on ne va pas la refaire. Il disait, non, pour moi, elle peut être faite, on va refaire. Bon, il est rentré complètement dans le jeu, ce qui fait que finalement, ils nous ont accordé une heure supplémentaire. Donc on a pu finir. Et qu'ils ne nous ont pas fait payer, je veux dire. Donc de 6 à 7, on a continué. Avec les musiciens qui sont restés, les cordes. Il y avait un passage de cordes. Voilà.
Vous êtes intervenu, vous? Est-ce que vous avez eu un échange avec l'orchestre?
Et il y avait en fait dans le studio 4 personnes, dont un ingénieur du son avec une très grande console. Mais ces gens travaillent sur des symphoniques depuis 1946, pas eux. Comme disait Florence, me disant, il ne va pas être tout jeune le chef. J'ai dit non, c'est pas ça tout à fait. Mais il y avait 2 ingénieurs du son avec 2 consoles. Bon, j'y étais, j'étais un peu en arrière. L'arrangeur était assis à côté de moi avec les partitions. Et à sa droite, une dame qui coordonnait nos indications ou les indications de Rémi Dumoulin avec le chef, communiquer avec le chef. Par exemple, on disait, dans l'endroit, non, la mesure, c'était plutôt comme si. Moi, je suis intervenu 3 fois. Hein, et c'est surtout sur des passages de crescendo ou de nuances à crescendo qui étaient écrits, qui n'avaient pas été précisés sur les partitions. Après, Rémi, qui connaissait par cœur son arrangement, disait, là, je préférais qu'on entende plus les bois, ou plus ci, ou plus ça, et donnait ses indications à la femme, parce que là-bas, il parlait tchèque ou alors anglais, bon, donnait les indications qui, elle, transmettait au chef. Et il y avait un gars qui supervisait tout l'ensemble, qui avait une sacrée oreille, d'ailleurs. D'ailleurs, il, comme j'ai dit, prenait sa retraite cette année, et le gars, des fois, il disait, non, pas la bonne. Avant même qu'on ait réagi une seconde, le gars avait déjà dit non. Il a dû entendre une corde, un quart de milliardième de fausseté. Enfin, le gars était très, très, très fort. Donc, on travaillait comme ça, dans le studio. On avait un écran avec l'orchestre. Et puis, à côté, bon, les numéros, l'ordi qui défilait, enfin, tous les... Mais moi, j'étais fasciné, hein. Et même l'arrangeur à côté de moi, il a eu du mal tout de suite à se mettre dedans, parce que moi je vais le redire, mais je disais la musique ça se regarde pas, ça s'écoute. Et là j'étais comme un gosse en train de regarder l'orchestre en train de jouer. Et je me suis dit, Christian, faut écouter là, parce que s'il y a quoi que ce soit, il faut pouvoir intervenir des fois. Quoi.
Quand vous avez enregistré MNTTRE, le disque studio MNTTRE, il y avait cette pièce, un hi, et je me souviens que vous me disiez qu'il ne fallait absolument pas que le hi qu'on allait entendre, écouter dans le disque, soit la même chose que les nombreux highs que vous aviez pu enregistrer sur disque, que vous aviez joué. Est-ce que là, à la fois sur le texte et puis sur votre chant, est-ce que vous avez eu cette même exigence ou cette même volonté que ça sonne différemment ?
Ça va sonner différemment. Hein. Je crois qu'il va y avoir des surprises. Mais pour moi, le texte, même français, il est complet là. Puis la manière de le dire aussi, sur cette prise-là, le discours, je peux dire le discours en français, je le dis totalement différemment. Il est dans un autre climat. Même Stella m'a dit, c'est marrant, comme tu as dit le discours, j'ai eu des images. Et je dis toujours, quand on a des images en écoutant, c'est bon signe. Et j'ai vraiment eu le sentiment, d'ailleurs, il était hors de question que je refasse le texte. De manière, c'était très difficile à refaire. Mais les prises précédentes, j'avais dit le texte, j'ai pu le dire quand même assez souvent, hein, comme un joué de Zès, hein, mais le ton était toujours à peu près le même. Que là, il était différent. Il y a des couleurs différentes, parce que j'ai bien aimé. Il est différent, et puis tout le reste aussi, ça va être très différent. Il n'y a pas de chorus de guitare. Mais bon, on ne va pas en dire trop, parce qu'il vaut mieux que les gars gardent une certaine surprise.
Et pourquoi il n'y a pas de chorus de guitare ?
On l'a remplacé par autre chose.
Évidemment, c'est la musique qui nous intéresse, mais parmi les surprises, il y aura sans doute aussi la surprise de la pochette de l'enrobage. Là, vous êtes en train d'y travailler.
Voilà, la pochette est finie, terminée. Maintenant, on est sur les notes de pochette. Enfin, les notes, je veux dire, il y a l'histoire de Zès qui va être racontée. C'est Bruno Eusé qui va le faire, qui va enfin synthétiser un peu toutes les idées, parce que j'ai raconté l'histoire de Zès, j'ai fait une interview avec lui, il avait pris des notes, j'avais fait une interview avec Jean-Christophe Alouin qui m'a envoyé toutes les pages de cette interview sur Zès, c'est 11 pages. Après, il y a eu ce que son travail à Bruno Eusé qu'il avait déjà commencé, sur ce qu'il en savait, plus l'interview qu'il a faite, et là maintenant il est en train de synthétiser tout ça, et il aura quelques questions subsidiaires.
Toujours à propos de Zeiss, et puis pour terminer, parce qu'il va être temps de régler certaines choses sur cette batterie qui n'a pas bougé depuis hier soir, mais bon, qui a besoin de soins, d'amour. Oui. Vous pouvez déjà, enfin, je suis sûr qu'elle vous regarde, qu'elle vous entend de toute façon. À propos de Zeiss, il y a quelques temps, vous avez joué, alors je crois que c'était aux Pays-Bas, un piano solo, enfin qui n'était pas solo puisque Stella Vander était avec vous. Vous avez joué un extrait de Zeiss, le concert a été filmé, il y a une vidéo qui circule sur YouTube et moi je trouve que cette version elle est fabuleuse, elle est vraiment très très belle. Vous en souvenez de ce moment bien sûr hein.
Non.
C'est vrai
que non. Non, non, absolument pas.
Vous n'êtes pas revu ?
Non, je regarde pas, je ne vais pas sur... sur internet pour
vous voir.
Non, ouais. Et même les photos, j'avoue, non.
Justement, Zeiss, cette ambiance, elle est aussi proche de... Oui, pardon.
Est-ce que je peux dire que... Pourquoi dire Zeiss ?
Alors, vous allez m'apprendre à le prononcer.
Bah, il n'y a pas de I, très mal. C'est Zeiss.
Zeiss.
Zeiss, ouais, c'est Z, E, très mal, deux S.
Oui, c'est vrai, oui.
Et là, j'entends Zeiss.
Je dis, ben, il va falloir que je refasse tout.
Ouais, il faudra clac, clac. Ah, c'est plus facile à faire que l'intro. Hein,
Oui, j'imagine. Oui.
Non, mais enfin bon, je le dis au cas où. Hein. C'est Zeiss. Bon, qu'est-ce que je ne sais plus.
Alors justement, ce nom, il est arrivé comment ? Ce nom Zeiss.
Zeiss.
Zeiss, pardon.
Bon, un peu comme toujours, naturellement, hein, je pense, je me souviens plus vraiment, il faudrait terriblement piocher à l'intérieur, tu sais, ce qui est enfoui. Mais en général, j'ai toujours les significations, je compose un morceau, les mots viennent et je sais tout de suite de quoi je parle. Bon, Zeiss, la traduction, c'est maître, voilà, comme un maître. C'est la traduction du mot. Maintenant... je savais pas que tout ça allait m'emmener tout de suite. Mais j'ai commencé à composer l'introduction. J'ai senti qu'il y avait quelque chose derrière qui allait venir de fort à ce moment-là, dans les années 70, quand j'ai commencé.
Écoutez, on va terminer là-dessus. Merci pour votre temps et puis merci pour cette leçon phonétique également à Christian Vander.
Merci.
Mon professeur de Cobayen était bien évidemment Christian Vander. Plongez-vous dans le monde de Magma si ce n'est déjà fait. On se quitte avec un extrait de Zess en version vocale, enregistré à Douarnenez le 2 août 1992. Continuez à écouter toutes les radios libres et associatives et Alternante FM, bien sûr, Kenavo.
nach man dir, die Lusse aus Erden, wenn ich dieses Essen frei. Wir werden die Stürmen werden, der Losten der Freie, dies ist Lord. Ich würde so viel der Freie, die Losten das Werden, wie dies doch viel. Ich komme in einer Tausenden, dort des Werden eins, oder stürmen Tote. Und der führt das Werden, das Glau, jedes Band der Brust und dies heißt in des Werden der Ost. Die Stürme heran, an Lust werden eins lieben Stürmen und es vielen Toten. Oh, im Emone, Messini, Memone, Messini, Memone, Messini, 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 Mimone, Messini, Mimone, Messini, 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 Come on, give me a little bit.